Donc oui, alors tout un projet ici avec le parc national de l'Entre-Sambre-et-Meuse, donc oui. Avec Sébastien ici pour en parler. Et donc justement, alors par rapport un peu à la jeunesse de ce projet, toi, qu'est-ce qu'on pourrait dire que tu es guide nature depuis très longtemps et que
oui, au départ, je suis animateur.
Animateur, ok.
En fait, au départ, c'est ça, animateur animateur nature. Et donc, les hasards de la vie ont fait qu'à un moment, je me suis retrouvé comme formateur de guide nature. Et donc, c'était là que le côté guide nature s'est exprimé. Et en parallèle, le côté guide nature, c'est beaucoup, en tout cas avant, c'était beaucoup montrer les choses, expliquer. C'était plutôt de la biologie, quelque part. Et il manquait un petit peu un côté militant. Donc, j'aime bien aussi le côté militant et se positionner sur les questions environnementales d'un point de vue plus politique, mais pas de la politique, tu vois, plus général. Et donc là-dessus, on a fait une association aussi avec des autres camarades sur le côté pour pouvoir réfléchir aux questions environnementales et compagnie. Donc il y a ce côté militant que je revendique qui est là un petit peu partout, un petit peu tout le temps. Et puis, donc je travaille pour les cercles des naturalistes de Belgique. Et c'est dans ce cadre-là que, en parlant, on a vu qu'il y avait un appel à projet sur les parcs nationaux de la Ministellier, il y a plus de 2 ans, ça. Et on s'est dit, on essayerait bien, c'était un concours, il fallait remettre des candidatures, et puis il y en avait qui étaient sélectionnés, et compagnie. Et donc on s'est dit, on va tenter notre chance. Et clairement, il a apparu assez rapidement, donc d'abord, en tant que cercle des naturalistes, on n'avait aucune légitimité, on connaissait juste la nature, entre guillemets, donc c'était pas mal d'avoir aussi la commune avec. Et donc on était voir la commune de Virouinval qui tout de suite a dit on pourrait discuter, on pourrait voir un peu ce qu'il en est, pourquoi pas. Et donc au départ rien n'était fait bien sûr, il fallait discuter. Et donc on a discuté avec les cercles, d'autres associations, et puis en discutant on s'est aperçu que Virel Nature faisait exactement la même chose de son côté. Et géographiquement ils sont pas très très loin, ils sont sur la commune de Chimay. Donc on s'est dit si on veut avoir une chance que notre candidature ait de la gueule, parce que c'était un concours encore une fois, et aussi, quelque part, ça n'a pas de sens de faire des projets avec des associations de sœurs, des projets les uns côté des autres, autant se mettre ensemble. L'union fait la force. on s'est tous regroupés. On était voir les communes. 5 communes qui ont répondu partant. Donc Froidchapelle, Momigny, Couvain, Chimay, Virouinval. Le DNF, Division Nature et Forêt, qui est partie prenante aussi. Et donc, comme ça, on a eu toute une... Il y a eu... On est plein d'assos, Il y a eu plein d'assos, plein de groupements qui sont venus avec nous, publics et privés. Et on est une septantaine, quand la coalition large, on est vraiment beaucoup. Et la coalition, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais si ce projet est une ASBL, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais si le projet est une SBL, on a ce qu'on appelle la coalition territoriale. C'est là où se trouvent les communes, les organismes publics, les grosses associations environnementales, et en gros tous ceux qui ont mis de l'argent dans le projet. C'est un petit peu ceux, comment ça s'appelle encore ça, le comité de direction, si on veut, et l'assemblée générale, ce sont tous les autres qui prennent part au projet, mais qui n'ont pas spécialement, qui ne portent pas de fiches, qui n'ont pas spécialement un investissement financier dedans. J'ai essayé de faire simple, mais c'est un truc assez complexe, mais c'est ça la beauté du projet aussi. Il y a de tout, du public, du privé, de tous les horizons, et il a fallu trouver une façon pour que la machine fonctionne. Et la gouvernance, c'était un vrai défi. Et pour ça, on a eu... plein de gens, mais notamment Philippe de la Fondation Chimay Wartoise. Donc en gros, chaque fois que tu bois une bière, une Chimay évidemment, tu participes un petit peu à la santé de Philippe et de tous les autres. Mais lui, c'est un gars qui est passionné et ultra compétent dans tout ce qui est comment faire une association, la gouvernance, une SBL. Et donc grâce à lui, parce que c'est sûr que chacun ses compétences, lui, celle-là, il les avait. Et donc on a pu concevoir un squelette, une façon de faire pour que ça fonctionne. Et ça fonctionne.
C'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai que, conduire un peu ça... Alors, il y a eu aussi des... peut-être des espèces de leçons, entre guillemets. Enfin, je parle un peu des sources dont je me suis inspiré, hein, l'article que je t'ai montré, par exemple.
Ouais, l'article, d'ailleurs, il dit pas mal de trucs qui ne sont pas...
Par exemple, il parle du parc national de Campine, donc en Flandre.
Ouais.
Donc là, il y avait déjà un parc en Flandre. Ouais. Et alors, bon, finalement, bon, c'est un petit peu logique. J'ai envie de dire, ça fait 10 ans qu'il existe, celui-là. Mm-hmm. Finalement, c'est un peu logique. Wallonie, qui est plus grande que la Flandre, et où il y a moins de gens. Hein, on pourrait dire, bah, c'est logique que la Wallonie aussi est un parc, finalement. Enfin,
oui.
Je ne sais pas, toi, par exemple, tu étais déjà au courant de ce parc national là-bas, tu l'avais
fréquenté.
Toi-même, tu as pu faire des observations concrètes par rapport à ce parc qui t'ont aussi un peu confirmé dans ces idées que c'était une bonne idée d'essayer d'aller vers ce modèle-là ici.
Donc l'utilité de créer des parcs nationaux, pour moi, elle n'est pas démontrée. Parce qu'à partir du moment où on crée un nouvel outil de protection de la nature, l'environnement, clairement, c'est une bonne chose à essayer. Il suffit de regarder dans les médias. L'environnement est un vrai... La préservation de l'environnement est un vrai problème de société. Donc, s'il y a une nouvelle initiative, ben, il faut foncer. Donc, Okokampen ne va pas conforter dans cette idée-là. L'idée qu'il faut... que ce n'est pas une mauvaise chose de créer un parc national, elle va de soi. Maintenant, Okokampen, quand il a fallu construire notre parc national, il a fallu chercher une source d'inspiration. Et clairement, c'était celle-là. Pourquoi ? Si on regarde, les parcs nationaux, on en a fait quand même pas mal. Et bien souvent, ce sont des lieux, dans des grands pays, comme la France, dans lesquels bien, il va y avoir un minimum d'intervention. On parle de choses énormes, là, par exemple, la Vanoise, hein, je ne sais plus combien, c'est 20.
Donc,
20
c'est un minimum, mais ce n'est pas un minimum. Quoi. Ce sont des interventions. Quoi. Des interventions,
ouais, mais...
des investissements.
Non, des interventions dans le sens, par exemple, l'idée du parc national. Je vais reprendre mon explication.
Merci.
L'idée du parc national dans l'imaginaire populaire, c'est Yellowstone. Mmh. Yellowstone, c'est gigantesque et dedans, on ne fait rien. Donc c'est une libre évolution, c'est ce qu'on appelle la libre évolution. C'est super, ok, mais dans le contexte wallon, ça nous semblait un peu compliqué, à nous en tout cas, à mettre en place.
C'est du luxe.
Mais c'est-à-dire qu'il y a pour l'instant, aux portes de la Wallonie, un projet porté par Francis Allais, où eux veulent faire 70 000 hectares de réserve intégrale. Donc dans la botte de Givet ou du côté de la botte de Givet, ils ne savent pas encore très bien où. Et c'est un projet sur 1000 ans, donc avec une temporalité forte. Donc bon, je ne vais pas expliquer tout leur projet, mais donc voilà. À partir du moment où Attends. Je vois bien après te voir couper.
C'est clair. Il y a le chien qui s'y met, maintenant il y a la vieille qui va engueuler son chien.
Le chien, ça va. Hein. Et donc voilà, à partir du moment où ce projet n'est pas jugé comme saugrenu, et il ne l'est pas, puisqu'ils ouvrent un poste à Charleville-Mézières, on était à Paris ici samedi pour écouter un peu ce qu'ils avaient à dire, tout le monde, l'Élysée, sans me suivre, enfin, tu vois, les grosses instances françaises, je ne dis pas que ça se fera, je n'en sais rien même, mais en tout cas, l'idée n'est pas utopique. Mais bon, nous ici sur le parc national, il y avait une espèce de cahier des charges pour le concours et ce qu'on nous demandait c'était d'avoir un minimum de 5000 hectares dans le parc national et il y avait un certain pourcentage d'aires protégées et puis point, après à chacun de faire le plus beau projet qu'il voulait. Et donc nous, dans la candidature de l'Entre-Sambre-et-Meuse, on s'est dit eh bien on va essayer de faire 1000 hectares de réserve intégrale sur l'ensemble du parc. Donc le parc national il fait 20 000 hectares, sur l'ensemble du parc il y a différents projets dont 1000 hectares de réserve intégrale en plus. Donc ça s'inspire plutôt du modèle de Okokampen où il y a différentes zones. Mais il faut voir ce Okokampen en soi, c'est une idée de génie parce que c'est plus ou moins une friche industrielle. Ça n'a rien à voir avec Yellowstone. Et ils ont développé tout un modèle de protection et de tourisme autour d'une friche industrielle, quelque part. Et ça donne des résultats, de tout point de vue, vraiment extraordinaires. Donc, ça, c'est une chose. On s'est inspiré aussi d'eux, par exemple, ça, c'est l'appel à projet qu'ils demandaient. Ça semble une évidence, mais par exemple, les fonds doivent être plus que majoritairement destinés à la préservation de l'environnement. Conservation, préservation. Et tout ce qui est tourisme vient après. C'est un objectif pas secondaire, c'est le deuxième objectif. Donc nous, on n'est pas un opérateur touristique qui a pour objectif de développer un tourisme de masse. Que du contraire, et c'est là tout le défi, c'est de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir développer un tourisme tout en gardant l'objectif numéro un qui est préservation, conservation de l'environnement et du cadre de vie des gens qui vivent déjà dedans. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a des gens qui vivent là. On ne va pas leur dire, bon allez, maintenant dehors on fait un parc national. Ça n'a jamais été notre objectif, loin de là. On est allé trouver tous ceux qui étaient plutôt... on est allé trouver tout le monde. Il y en a qui nous ont dit, votre projet, on n'en a rien à foutre, et c'est leur droit. Et voilà.
Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, oui. il y a combien de personnes alors qui vivent là? Enfin, là, ça veut dire où? Ça veut dire dans les territoires qui ont été délimités
non.
pour le parc?
En fait,
tu vois, cette oui. question justement de, comme tu dis, le parc se crée, mais on ne va pas dire aux gens, vous partez, donc les gens peuvent rester là. Donc oui, ça, c'est quand même intéressant parce que c'est compliqué.
Donc en fait, le parc, dans l'appel à projet, il ne pouvait pas être dans des zones habitées.
Ah, ok.
Donc ça, il est dans des forêts. D'accord. Mais il y a des forêts.
Mais pas loin, quoi.
Voilà. Et ce sont. Quand on habite dans ces villages-là, fatalement, on utilise cette forêt pour aller se promener, pour couper du bois, pour faire tes champignons, pour ce que tu veux, mais bien souvent, tu vas dedans. Donc, il y a déjà des usages. Des chasseurs aussi qui chassent dedans. Et la priorité, une de nos priorités, clairement, c'était de se dire, OK, ces gens-là ne doivent pas être impactés négativement par notre projet. Parce que ça n'a pas de sens, en fait. Et ces gens-là... la plupart des gens de l'équipe du parc national en font partie. Une grande majorité habite dans le parc national. Donc ils sont concernés. Je doute bien que notre équipe, ce ne sont pas tous des Bruxellois qui habitent à Bruxelles, parce qu'il y aurait un problème de... Enfin, ça n'irait pas. Ça ne serait pas cohérent même. Maintenant, comment les intégrer tous dedans? Alors, ça c'est la question un petit peu utopique. Comment intégrer tout le monde dans le projet? La première chose quand on va s'intéresser à cette participation citoyenne, c'est que tout le monde ne sera peut-être pas intéressé d'y participer. Et qu'il y aura probablement, même il y en a, des gens qui sont contre le projet, pour des raisons x, y, qui les regardent et qui sont personnelles et tout à fait valables, pour eux en tout cas.
Ne croyez pas en ces progrès, regardez son passé et sa cupidité. Avec sa machine d'écroté, jusqu'à la fin de l'humanité. Où sont les civilisés? Où sont les sauvages? La mort ou la vie? La vie. Tous les copains, tous les copains, tous ceux qui vivent et habitent la terre, ils savent que la biosphère, c'est la nouvelle ère. Tous les copains, tous les copains, tous ceux qui vivent que la biosphère, c'est la nouvelle ère. Ne séchez pas votre fontaine, écoutez les chamans, notre gardien. L'organisme vivant seul paradis. Qu'est-ce qu'un civilisé? qu'est-ce qu'un sauvage? Vous devez faire un choix, la mort ou la vie? La vie.
Vous cherchez, vous chargez d'une certaine tâche, entre guillemets, d'objectif par rapport à justement cette idée de conservation de la nature, hein, les aires protégées et tout ça.
Donc ça, c'est l'appel à projet.
Ça, c'est l'appel
c'est
à projet.
C'est défini dans l'appel à projet de la ministre.
C'est défini dans l'appel à projet, mais donc, vous devez le faire quoi, maintenant, vous devez mettre ça en œuvre.
Oui, donc, par exemple…
Après, la deuxième question par rapport aux gens, justement, on va dire que voilà, il y a moyen de mettre en œuvre une certaine protection. Et puis alors après, au-delà de ça, ben, on peut faire plus éventuellement.
On va prendre les réserves intégrales. Mm-hmm. Les réserves intégrales, donc c'est des réserves où on ne coupe pas la forêt. Mm-hmm. Elles faisaient peur parce que, aux locaux, à certaines personnes, parce que ah bon, on ne pourra plus aller faire notre bois de chauffage. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas nous, Parc National, qui avons dit « Ah ben, on va faire une réserve intégrale à cet endroit-là. » Nous, on a été voir le bourgmestre de chaque commune et on lui a dit « On aimerait bien faire des réserves intégrales sur votre commune. » Les bourgmestres ont dit « Ok, chacun. » Suite à ça, ils sont allés voir leur administration, donc le DNF, et ils ont demandé, tiens, est-ce que vous pouvez nous désigner des endroits? Ils ont désigné des endroits, et ces endroits doivent passer, ils ne sont pas encore passés tous, je crois, maintenant, donc ils doivent encore le faire, doivent passer en conseil communal. Donc là, il y a quelque part une participation. En parallèle de ça, on organise des journées, il y a eu 50 journées, ici, 50 visites, où on montre des beautés du parc, donc où on fait visiter à qui veut le parc. Et donc là, l'idée, c'est aussi de montrer, tiens, voilà, aux citoyens, celui qui veut en parler, même aussi, on se rencontre, et ben voilà, on va faire un tour, on parle des réserves intégrales, on parle de comment ça. Donc là, il y a une rencontre, c'est vraiment ça. Et la troisième chose, on s'est dit aussi dans le projet du parc, eh bien, on va valoriser ces réserves intégrales, puisqu'il va y avoir, il pourrait y avoir un manque à gagner pour les communes, puisqu'elles ne couperont plus ce bois-là. Donc, on valorise ça et on donne une somme. Financière quoi, chaque année pour la conservation de ces réserves intégrales.
Donc là, ça vient de la région, ça passe par vous et ça,
ça
va,
vient de l'Europe.
Ça va à la commune.
En fait, ça vient de, la,
ça vient
de l'Europe, okay. Plan de relance. Puis ça va dans les appels à projets, on gagne l'appel à projet, donc cet argent nous revient. Et puis avec cet argent-là, on paye une partie des 1000 hectares. Quoi.
Aux communes.
Oui, on paye les 1000 hectares, enfin la non-exploitation de ces 1000 hectares chaque année. Et les communes étaient plutôt intéressées parce que on ne parle que de 1000 hectares. On ne parle pas non plus de, et encore, de 10 000 hectares ou de 20 000 hectares. Et les revenus du bois, donc ici il y a eu la crise du scolyte, donc ça a fort impacté le revenu du bois. C'est devenu beaucoup plus inconstant qu'avant.
Inconstant ?
Tu vois, avant c'était très constant, hein, le revenu du bois. Maintenant, c'est compliqué, il y a des années avec, des années sans. Ce qu'on propose, nous, c'est de valoriser autrement.
Pour le chauffage, alors les gens chauffent avec d'autres trucs.
Non, pour la vente de bois d'œuvre. Par exemple, quand il y a eu un scolyte, donc c'est un animal qui a tué beaucoup d'épicéas.
Ah, okay.
Enfin, le réchauffement climatique a provoqué.
Pour construire, bois d'œuvre, pour construire.
Oui, voilà, le bois qu'ils vont vendre. Mm-hmm. Et tout ce bois, des années, tu vas avoir beaucoup de mètres cubes, des années, tu vas pas en avoir beaucoup. Tu n'arrives plus à être constant comme avant et avoir un revenu fixe. Nous, on proposait un revenu fixe.
Ok, donc soutenir la production de bois ici en Belgique.
Non, pas du tout. Non. C'est-à-dire que si tu ne coupes pas, on va te donner, disons, 100 euros par hectare par an. D'accord. Et donc là, tu te dis, ah, est-ce que je prends les 100 euros par hectare par an de sûr, ou est-ce que je vais entre 70 et 130, ça pourrait faire la même moyenne, mais à mon avis, ça serait même moins, et en sachant que rien, enfin, c'est tout à fait instable. Ça ne m'étonne pas, en fait, que les communes se sont dit, je préfère prendre quelque chose qui est stable. C'est logique, finalement. En sachant que ce revenu généré par ces forêts, il n'est même plus assuré dans l'avenir, parce qu'avec les changements climatiques, avec les changements globaux, la production, la forêt de production, elle change complètement. Et donc, il y a vraiment, c'est même une vision, enfin, une remise en question plus large que juste le parc national. Et les communes gardent aussi une grosse partie de leurs forêts qui ne sont pas dans le parc national, puisqu'elles ont mis ce qu'elles désiraient dans le parc national. Donc, tu vois, elles peuvent encore vendre du bois. D'ailleurs, bien souvent, tout ce qui est... Donc, c'est vraiment... On parlait de politique tantôt, mais c'est la politique. Qu'est-ce qu'on met dans le parc, qu'est-ce qu'on ne met pas. Nous, parc, on n'est pas intervenu là-dedans. On ne dit pas, vous devriez mettre ça ou ça.
Mais tu dis les communes vendent du bois.
Oui. Mais pas dans le parc.
Enfin, elles vendent du bois, en fait, elles vendent un bois. Mais elles ne vendent pas du bois en tant que tel. Elles vendent un bois pour l'exploitation.
Non, elles vendent leur bois.
Pour la production de bois.
Elles vendent leurs arbres aux exploitants forestiers.
Mais, enfin, un terrain.
Non, des lots.
Ça se passe comment ? Ça, je
ne connais pas trop. Et dans le parc national, il y a 1000 hectares supplémentaires qui vont être classés en réserve intégrale. Mm-hmm. Tout le reste, on peut exploiter du bois. Donc, simplement, ça doit être exploité avec une méthode plus... ça devient un petit peu plus compliqué. Mais en gros, on va pas couper la forêt sur 5 hectares. On va essayer d'assurer la pérennité de la forêt, en fait. Et comment ça se passe, la vente ? C'est le DNF qui, chaque année, tout ça est prévu. Hein, va dire, ah ben, on va couper, je sais pas moi, 50 hectares, autant de mètres cubes cette année-ci. On va dire qu'il n'y a qu'un lot, ils font des lots, hein, mais on va dire qu'il n'y a qu'un lot sur la commune de Chimay. Et alors, la commune fait une vente aux enchères pour le lot de la commune. Et les marchands viennent. Et celui qui met le plus de sous, il a le lot de X mètres cubes, autant d'hectares. Et il l'exploite et il revend le bois aux scieries. Enfin, ça sert à quoi. Donc oui, les communes vendent du bois.
Ok, alors maintenant, est-ce que toi, tu pourrais nous... Bon, déjà, bon, ça nous donne toute petite idée microscopique de tout ce qui peut se passer, enfin, dans toutes ces dynamiques liées au parc, quoi.
Ouais, c'est complexe. Hein.
C'est complexe, hein, évidemment. Mais on revient à toi, si tu veux bien. Donc, ton parcours de militant, etc. Et donc, peut-être c'est ça qui, finalement, a fait en sorte que, dans l'équipe qui s'est constituée, tu as eu, le poste, un poste qui t'est échu, touche à cette sensibilisation citoyenne. Donc, tu as toujours été en contact avec des publics, pas que sur un terrain de guide nature, mais parfois un petit peu plus large, d'après ce que je comprends.
Oui, et puis j'étais là. En fait, c'est beaucoup... Enfin, tout le monde s'est dit, on ferait bien un parc national, oui, deux, trois projets. Tu te retrouves à 4-5 autour de la table. Je t'ai dit, d'abord, il faut un capitaine. Hein, et personne ne sentait les capacités de le faire, c'est un peu compliqué. Hein. On sait bien que si on n'a pas un bon capitaine, le bateau, faire ce que tu veux, il n'avancera pas. Et donc là, on a trouvé Johanna. Et c'est vrai que c'était la personne qu'il fallait. C'est ça aussi le secret, quelque part, de la candidature. Hein. Les bonnes personnes au bon poste. Quelqu'un qui a une vision vraiment globale de la chose et qui a une capacité à intégrer des concepts à apprendre qui nous laisse tous un peu pantois. C'est la seule personne qui pourrait te parler de toutes les fiches projets du parc national. Parce que les autres, on connaît que les nôtres. Quoi. Et puis, comme tu dis, oui, l'éducation, la participation citoyenne, ça a toujours été un peu mon truc. J'étais là, on était 4-5.
Juste nous donner quelques exemples de ces fiches projets, ou alors tu me passeras, tu passeras la liste, j'en citerai quelques-unes.
Oui, il y en a 90, je connais les miennes, tu vois, celles, donc en éducation maintenant, il y en a plein en fait, les un petit peu emblématiques, il y en a une, c'est une grosse fiche projet, parce qu'il y en a des grosses et des petites. Hein. Mm-hmm. Il y en a une, mais c'est la création de ces 1000 hectares de réserve intégrale, et donc savoir où on le fait, où est-ce qu'on les met, ça prend... C'est pas si simple, c'est pas clac, on le met sur la carte et c'est bon. Et ça se fait rien si là, on boit le chien. Et puis, il y a une autre fiche projet qui est emblématique, c'est mettre en place tout pour qu'il puisse y avoir un troupeau d'une centaine de moutons. Je ne sais pas exactement combien ça, je ne connais pas par cœur la fiche, mais on va dire d'une centaine de moutons, avec un berger, et que ce troupeau de moutons puisse partir en mai de Viromainval, aller jusque Chimay, et puis revenir pour le mois d'octobre, disons. Et de faire pas une transhumance, vraiment un pâturage itinérant, c'est le nom de la fiche. Et dans cette idée-là, en fait, il y a pas mal de pelouses calcaires. Ce sont des pelouses sur sol calcaire, comme son nom l'indique. Et depuis longtemps, au moins le Moyen-Âge, toute cette région-là de la Calestienne, du côté de Viromainval, Chimay, Couvain, était parcourue par des troupeaux comme c'est itinérant. Et il y a toute une biodiversité spécifique qui s'est développée là-dessus. Et ben maintenant, comme il n'y a plus de moutons qui pâturent en itinérance, ben toutes ces pelouses se sont refermées. Se sont refermées, c'est-à-dire se sont faites coloniser par la forêt, où ont été plantées. Et l'idée, c'est de se... Et donc les pelouses calcaires qu'on a encore maintenant, il faut chaque année un paye qui va les tondre. Il n'y a rien à faire, puisque sinon c'est la forêt. Et ben, ça coûte, ça n'est peut-être pas toujours non plus la meilleure des choses. Et donc il y a eu plusieurs, il y a plein d'idées. Il y a eu notamment l'idée de refaire pâturer, mais par des moutons, mais qui restent là tout le temps. Mais donc à un moment, les moutons, ils mangent l'herbe, mais ils mangent aussi les orchidées, ils mangent un peu tout. Donc là, l'idée maintenant, c'est ce troupeau itinérant, essayer de recréer les conditions qu'il y avait lorsque ces milieux se sont créés il y a quelques milliers.
Tu dis ils mangent un peu tout et ça c'est pas bon.
Mais c'est pas une question de bon ou de pas bon. Non mais en fait, si tu veux, donc t'as une prairie, on va dire, je vais schématiser, on va dire que t'as une prairie et t'as une orchidée et un criquet spécifique des pousses calcaires. Et tu veux qu'il y ait toujours l'orchidée et le criquet à cet endroit-là. Si tu ne fauches jamais, eh bien l'orchidée et le criquet, à un moment, il va y avoir des petits arbres qui vont venir, ils vont les étouffer, ça c'est terminé. Tu pourrais prendre cette option-là, mais ce n'est pas celle qu'a pris le parc national. Donc il faut chaque année qu'il y ait un mec qui tonde pour que ces plantes puissent repousser. Si il n'y a pas le mec qui tonde, tu peux mettre un mouton. Mais le mec, quand il va tondre, il va s'arranger pour passer quand il n'y a plus l'orchidée. Mouton, s'il y a tout le temps, ou un fameux laps de temps, à un moment, il va manger l'herbe, et puis il va manger l'orchidée aussi, et donc tu ne vas plus protéger grand-chose. Donc, c'est ça que c'est. S'il ne fait que passer, alors là, l'orchidée ne va pas la manger parce que ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur pour lui. Je vais au niveau du goût. Je schématise, mais l'idée, elle est là.
Bah, c'est original, en tout cas.
Ah ouais, donc, ça, c'est une fiche projet, une des emblématiques. Quoi. Ouais, c'est un gros truc, ça.
Tu t'en occupes de ça?
Non, pas du tout. C'est ça, c'est notre département nature. C'est Thibault qui s'en occupe. Donc, si tu veux, on est en département. Et il y a tous ceux qui font la gestion de la nature, la gestion et la non-gestion, c'est-à-dire la mise en place des réserves intégrales, c'est aussi dans leur poste. Quoi. Moi, je suis dans tout ce qui est environnement. Et donc là,
tu aimais bien, tu es spécialisé avec les mammifères quand même.
Oui.
Il y a une fiche projet qui est liée à ça dans ta besace.
Ben donc nous, c'est toujours dans l'éducation. Donc tu vois, et clairement, il y a... Donc ici, on vient de faire le marché pour avoir une vingtaine de caméras, tu vois, des pièges, pièges photographiques, là, pour mettre un petit peu partout.
Marché aux puces ? Le marché, quel marché ?
Le marché de service, enfin, des trucs un peu chiants, tu vois, des papiers, tu dois faire des dossiers pour savoir, envoyer à trois personnes et pour qu'on te réponde.
Combien vous allez vendre pour 20 caméras
Oui, mais attention, c'est très chiant à faire, ça prend un temps de dingue. Mais ce n'est pas une perte de temps, parce que ça permet, il y a un mécanisme qui fait que tu sais pas détourner l'argent. Donc il y a eu des abus par le passé, et maintenant il faut être irréprochable. Franchement, c'est vraiment chiant à faire. Mais,
tu t'occupes de ça?
Non, moi j'ai pas. Non. Alors, pour te dire, moi je fais un petit marché à la con pour mes caméras, mais les gros marchés, on doit faire pas. Donc là, il y a une coalition large, je te disais tantôt, il y a YTech. Donc YTEC, c'est une intercommunale sur Charleroi, donc qui vit à Charleroi Métropole, nous aide. Ils nous ont donné un nombre d'heures où là, il y a une dame, Dimitra, qui connaît cette législation sur les marchés publics. Mais alors, c'est impressionnant. connaissance de cette loi qui à moi me semble rébarbative, mais elle aime beaucoup ça et donc elle nous aide, elle connaît. Moi je connais que dalle, je fais un truc, je le fais lire par Marc et si ça ne va pas, on demande à Dimitra. Voilà. Et d'où l'importance de tout le réseau, tu vois, ça va jusque Charleroi.
Marc
Le Grain.
Marc lequel ?
Marc, c'est celui qui...
C'est pas Philippe, pardon.
Non. Marc, c'est un de l'équipe qui s'occupe de tout ce qui est administratif, ressources humaines, et il connaît un petit peu, il connaît déjà plus que nous, quoi, là, dans tout ce qui est attribution des marchés.
Ok, mais donc toi, tu es un peu le moteur par rapport à...
Éducation, sensibilisation, on est deux.
Ok.
Avec ma collègue Odile.
Et donc, alors, par rapport à cette histoire de mammifères,
donc, ah oui, et donc, donc on doit faire... toutes ces petites caméras, elles vont capter des images un peu partout d'animaux. Il faut quand même... Par exemple, ça ne marche pas avec des mouches, tu vois. Il faut déjà, même avec les souris, c'est un peu juste. Il y en a des spécifiques, mais il faut déjà un volume. Parce que tu vois, c'est quand quelque chose... Quand un volume passe devant la caméra, elle se déclenche. Donc, il faut un certain volume. Et avec ça, l'objectif, c'est clairement de montrer la vie sauvage, donc les mammifères, aussi les oiseaux, hein, mais qui sont présents dans le parc. Pour que...
De les montrer donc aux gens
À tout le monde, en fait. Dire voilà ce qu'il y a. Mmh. Celui qui habite le long de la forêt, dire voilà ce qu'il y a dans ta forêt.
C'est pas un simple comptage pour vous, là, de spécialistes.
Non,
c'est...
Alors...
Éducation...
Oui, c'est ça, c'est dans l'éducation. Alors, bien sûr, pour
Divulgation.
Oui, éducation.
Éducation, divulgation...
Oui, voilà, c'est ça.
Vulgarisation...
Voilà. Faire prendre conscience, en fait, hein. Si tu habites le long d'un bois, je ne suis pas sûr que tu saches exactement ce qu'il y a derrière. Qui vit là? Tu sais parfois, plus ou moins, l'un ou l'autre, mais tu ne sais pas exactement qui, de quoi. Enfin, qui, au niveau des animaux, hein, bien sûr. Je ne parle pas des gens. Donc, pour nous, c'est important aussi parce que ça vient avec l'idée de... si on crée un parc national, il doit y avoir une fonction. Pourquoi? Ben, protéger quoi? Ben, ce qui vit dedans. Et donc, c'est matérialiser... Le pourquoi du parc national. Pour les locaux et pour les gens extérieurs, dire voilà ce qu'il y a chez nous. Donc ça, c'est pour faire des petites capsules qui auront une minute. Et voilà.
Qui vont être diffusées alors.
Ici, on en a, j'en a déjà quelques. Donc ici, c'est un peu complexe. Tu vois, il faut... Donc pour mettre ça au point, ici, on a déjà commencé, mais il faut voir comment traiter les choses. Il faut voir aussi avec la com. Tu vois, c'est pas moi qui vais faire une petite capsule sur mon programme et puis que je tape ça sur les réseaux sociaux. On a un service com qui harmonise tout ça et c'est une bonne chose, mais bon, tout ça prend du temps, quoi.
Et alors bon, il faudra penser aussi au niveau de la diffusion, à quelle échelle, parce que donc le parc c'est très grand, donc comme tu dis, bon ben on essaie de capter dans tel endroit, que les gens du coin sachent animaux.
Alors,
est-ce que ça va être diffusé aux gens du coin seulement ou
non,
à
tout le monde, mais je vais jamais dire exactement c'est où. Parce que si par exemple, je ne sais pas, moi, il y a un cerf.
Tout le monde y va.
Oui, voilà. Là, c'est pas ce qu'on veut.
C'est le problème des guides nature. C'est
non,
que...
oui, non, ça, il n'y aura pas.
Okay.
Bon, d'abord, il y aura un problème de latence. Tu vois, si aujourd'hui, je mets une caméra, je la mets pour un mois, demain, je ne sais pas, moi, il y a un cerf qui passe, on a l'image du cerf. Dans un mois seulement, je vais venir la récolter. Et puis, il faut monter. Donc monter, on peut compter, si ça va très vite, 3 mois, mais ça sera plutôt à mon avis 6 ou 7. En gros, les images qu'on va prendre cette année-ci, en décembre, ce seront celles qu'on va diffuser en décembre l'année prochaine. Donc il y aura un an entre la prise de la vidéo et la diffusion de... Donc on ne sera pas du tout dans le scoop. Et on s'arrange pour que ça, qu'on ne voit pas où c'est. On ne va pas prendre des plans larges. Parce que ce n'est pas du tout ça qu'on veut. Clairement, des plans beaucoup plus rapprochés. Et qui permet de ne pas savoir trop où c'est, et peu importe, en fait, savoir la marque, la fouine, où est-ce qu'elle se trouve exactement. Moi, je saurai où c'est, pour le monitoring, on pourra dire, ok, là, il y a telle espèce, mais ça ne sera pas public.
Ok. Waouh, eh ben, dis donc, c'est génial, toutes ces explications. Vraiment super, merci beaucoup, Sébastien. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu maintenant par rapport à l'aspect économique? Bon, de toute façon, il y a un volet citoyen, donc il y a le contact avec les gens ici et tout ça. Moi, ce qui m'intéresse aussi un petit peu, bon, je ne connais pas très très bien la Belgique, hein. Je suis belge, mais je suis bruxellois, donc tu vois ce que je veux dire.
Hein. Tu n'es pas vraiment belge, quoi.
Tu n'es pas vraiment belge, exactement. Bon, mais bon, dans les quelques trucs qu'on lit, que voilà, c'est quand même une région en Belgique avec voilà, des revenus au niveau des gens qui ne sont pas très très élevés et tout ça. Bon, alors, c'est sans doute lié à l'histoire. Hein, est-ce que toi, par exemple, le fait de cette idée de lier le parc national avec cette caractéristique, on va dire, de la population de cette région, ça te paraît... il y a quelque chose là-dedans qui fait sens pour toi, ou bien particulièrement,
Non. D'abord, cette région est réputée pour être une des plus pauvres. Ça dépend où, parce que en fait pas sur tout le parc national, loin de là. Et puis c'est une pauvreté tout à fait relative, et pauvreté n'est pas égale à misère. C'est pas la misère là-bas, loin de là, et on y vit très bien. Et les gens sont tout aussi heureux, si pas beaucoup plus heureux qu'ailleurs.
j'ai lu ça, alors je sais pas si
j'ai dit ça. Oui, non, mais parce que souvent on nous présente comme le développement économique pur. Ah, et plus on a d'argent, plus on est heureux. Ça, c'est faux. Hein, s'il suffit d'aller voir les Flamands, ils sont... Oh, attends.
C'est mon GSM. Ça y est, ton autre boulot. Tu veux, je tiens le...
Ah.
Je tiens
attends.
Le... Ouais, vas-y, je t'en prie, je t'en prie.
Ça, c'est le côté militant. Sous les syndicalistes du nord de la France.
Ah oui.
Ni nu, je suis ni nu, comme une rose à fleur de peau. Ni nu, je suis ni nu, comme un roseau pend sur les eaux. Ni nu, comme un tétard, je suis ni nu, le temps blafard. Ni nu, dans la grand mare, je suis ni nu, ni nul, ni nu fin. Ni nu, six pieds sous terre, je suis ni nu d'une mer mystère. Ni nu, un ciel ouvert, je suis ni nu d'un père lumière. Ni nu, à la frontière entre l'obscur et le soleil. Ni nu, crépusculaire, je suis ni nu, ni nul, ni nu.
Donc toujours à l'écoute de Pire FM depuis Tilf. Je vous rappelle que nous sommes à l'écoute de Sébastien Lezacar Rojas, chargé de mission sensibilisation et participation citoyenne pour le parc national de l'Entresambre et Meuse.
Donc pour en revenir sur tout ce qui est argent, Il ne faut pas oublier que les Flamands sont probablement, font partie des peuples les plus riches du monde et sont complètement insatisfaits de leur situation. Hein, tu vois, donc l'argent ne fait pas plus que ça.
Pour citer tes références.
Franchement, on en parlait.
Après. Hein.
Non, mais regarde les sondages d'opinion, je les ai encore entendus la semaine passée. On explique que.
Attends, essaie de ramener un petit peu le. Excuse-moi.
Regardez les sondages d'opinion, on nous dit, ah, mais en Flandre, ils sont pas contents. Et c'est vrai que le vote, on nous annonce un Vlaams-Belangen, premier parti de Flandre, c'est un vote contestataire. Qu'est-ce qu'ils contestent? Je veux dire, ils ont tout, ils ont plein emploi, point de vue économique, ils ont tout, et ils ne sont pas encore super heureux. Donc, je ne sais pas si le développement économique à tout prix est un modèle. En tout cas, pour moi, il n'en est pas. Mais... Donc ça c'est une chose, ce n'est pas l'objectif du parc national de, d'inonder, de faire, on, de faire un, ce qu'il ne faudrait pas se mettre mal avec d'autres, mais on ne veut pas devenir la capitale du tourisme, ça c'est clair. Maintenant, regardons les choses telles qu'elles sont, regardons les choses en face, ce n'est pas un grossier mot non plus de se dire tiens on va gagner de l'argent. Hein, on peut, sans être un. Je veux dire, on ne peut pas être taxé d'ultralibéralisme quand on dit tiens, on va essayer de gagner des sous. Voilà. On peut simplement. Je veux dire, c'est légitime de se dire on va essayer d'en gagner. Et on peut essayer d'en gagner en respectant ses valeurs. Et là, clairement, c'est là que le parc intervient, de se dire ok, on doit assurer la protection, on doit assurer la préservation de l'environnement, environnement, nature, mais aussi environnement de vie. Mais en tenant compte, donc ça c'est une chose, mais on peut aussi permettre au tourisme de se développer. Quand il y a eu le Covid, il y a eu un tourisme sauvage. Donc les gens sont allés un petit peu partout, un petit peu n'importe où. Ça n'a pas plu aux gens du coin. Et clairement, le parc peut apporter une réponse à ça. Dire ok, on va canaliser, on va s'arranger pour que les choses se passent dans l'ordre. Et là, par exemple, il y a une étude à Greta, qui date des années 2020, où ils ont mis en avant, et c'est assez logique, que à partir de l'endroit où tu arrives, que ce soit en voiture ou en train, parce que l'objectif pour nous, c'est que les gens arrivent dans le parc en autre chose qu'en voiture, en un autre moyen de transport, et bien de l'endroit où tu arrives, la plupart des gens, ils vont être à 2-3 km autour, ils ne vont pas aller beaucoup plus loin. Et c'est vrai, les parcs nationaux, j'en ai déjà fait combien, et vraiment, vraiment beaucoup en Europe, tout le monde se trouve où? La grande majorité des gens, dans la petite promenade qui est autour du parking ou de la gare, au restaurant et au café. Donc, tout le monde se trouve au restaurant, au café, dans les petites balades. Et donc, on doit organiser des portes d'entrée. C'est ce qui a été convenu avec les communes. Chaque commune, ça
va? Attends, je vais peut-être le tenir un petit peu.
Si tu veux, je le tiens.
Ouais.
Tu me dis que ça va comme ça?
Peut-être un peu un
comme
peu
ça
plus bas, un peu plus bas, un peu plus...
Comme
ouais,
ça?
Voilà, comme ça, genre okay. Comme ça. Ouais.
Et donc, là, avec les communes, on a demandé, tiens, où est-ce que vous voulez mettre des portes d'entrée? Des portes d'entrée, alors là aussi, c'est pas une porte.
Sinon,
où tu le tiens.
Ah ouais, je vais le tenir.
Et donc.
On va essayer de faire voilà, proche de ce qu'il y avait avant, mais. Voilà, peut-être qu'il y a un truc qui a bougé, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est. Ok, vas-y. Bah, si,
donc, on doit organiser l'avenue des gens, et une des organisations, c'est de faire des portes d'entrée, avec quelqu'un ou sans personne. Mais la porte d'entrée, c'est pas payant, et il n'y a pas une porte. Parce que, on nous a déjà demandé, il y avait une porte. Donc, c'est un endroit où tu arrives, quoi. Et ça, c'est une façon d'organiser les choses. En créant des portes d'entrée, tu vas aussi laisser des endroits où il y aura beaucoup moins de gens, voire personne. Et donc, tu vas pouvoir commencer à organiser ton tourisme, s'assurer aussi que les gens qui viennent dans le parc, ben, leur proposer, par exemple, une guidance, mais une guidance faite par quelqu'un qui est là à côté, puisque tu sais où ils vont arriver et tu peux... Tout ça fait partie des projets qu'on est en train de développer, quoi.
C'est ça, oui. Alors évidemment dans les autres trucs qu'on lit, des gens disent oui mais ça va être difficile de contrôler, et c'est vrai quand on parle de quand on voit des endroits on parle souvent des villes hein, plutôt, mais bon les problèmes que génère le tourisme dans les villes en Europe très difficile oui. de contrôler.
Oui mais pour la situation dans le parc national, pour l'instant on ne contrôle rien du tout. Donc c'est vrai qu'on ne saurait pas contrôler plus que maintenant. Et nous, ce qu'on propose, c'est justement de canaliser, contrôler, c'est un grand mot. Parce qu'il y a quelque chose d'assez péjoratif là-dedans. Mmh. Mais de canaliser un maximum, d'orienter. Donc oui, celui qui s'en plaint, il ne peut être que d'accord avec notre projet. Donc voilà, je ne saurais rien dire de plus. Je suis d'accord, le tourisme sauvage, ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on fait une promenade et qu'on balise une balade, disons, hein, et qu'on dit que, donc on ne va pas faire de nouveaux chemins, mais le parc national pourrait mettre en avant une balade, par un itinéraire tracé et des commentaires. Et bon. Le parc national fera tout pour que les gens restent sur le chemin, mais s'il y a quelqu'un qui met un pied à côté du chemin, là où on ne peut pas, normalement, bon ben, c'est bien embêtant, mais on ne peut pas être responsable de tout non plus. Cette personne qui met le pied à côté du chemin, probablement qu'elle sera allée aussi sans le parc national, mais là, si on ne l'oriente pas un tout petit peu, elle sera allée un petit peu n'importe où, elle aurait fait de la travers tout. Donc on peut toujours trouver du bon ou du mauvais. Ce qui est sûr, c'est que on réfléchit aux choses pour qu'elles soient le plus positif possible. Et peut-être qu'on se trompera sur un point ou l'autre. On fait tout pour que non, mais bon.
Alors bon, maintenant, peut-être par rapport à ces histoires de la participation citoyenne, maintenant, c'est peut-être ce qu'on pourrait aborder un peu en guise de dernière partie, on va dire, de l'interview. Prends ton temps pour nous dire les choses qui te semblent. Voilà, sur quoi est-ce que toi, tu es mobilisé à ce niveau-là pour l'instant? C'est quoi ton agenda? Est-ce qu'il y a des... est-ce que donc cette participation citoyenne, ben, elle va se faire dans toutes les zones donc du parc? Et si oui, comment? Est-ce qu'il y a des gens qui vont un peu la réponse est forcément oui, des gens qui vont t'épauler dans chacun de ces endroits-là. Mais donc toi, tu es là pour assurer une sorte de cohésion un petit peu à ces petites dynamiques qui vont être impulsées dans ces différents endroits.
Ouais, attention que...
Voilà un petit peu comment je poserai la question. Mais...
Tu devras peut-être me reprendre une fois ou l'autre, parce qu'il y a beaucoup dans ta question. Mais d'abord, pour la participation citoyenne, il faut bien être conscient qu'on n'a pas, on va pas réinventer la roue. La participation citoyenne, elle est déjà forte dans tous les villages. Pas spécialement autour du parc national, fatalement on n'y était pas, mais il y a déjà pas mal dans les séries d'histoire, du côté dans la Vallée-Viron, ils sont tous dans les carnavals, ils font tous des trucs, il y a des fanfares, il y a quelque chose. Et nous, on n'est jamais qu'un truc en plus. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de se dire, eh bien, on va profiter de tout ce qui existe déjà pour essayer de ne pas refaire la même chose, et si ça existe, de voir comment est-ce qu'on peut inclure ses forces, on va dire, dans notre projet. Donc, au niveau de la participation citoyenne, c'est surtout ma collègue Odile qui porte la fiche participation citoyenne, conseil citoyen. En fait, il y a différents angles d'attaque, si on veut, sur le sujet. Il y a clairement un angle d'attaque qui est d'informer. On informe et puis après de récolter. De voir, on informe de ce qu'on fait, qu'est-ce que vous en pensez? En gros, c'est ça. Et là, ça passe beaucoup par la rencontre, en fait. La rencontre de personne à personne. Tu me demandes ce qu'on faisait, par exemple, on fait des ciné-débats sur toutes sortes de thèmes. Alors, où ça se passe? Ça se passe dans chaque commune, en fait. Par exemple, les ciné-débats, c'est un par commune par an. Ça en fait 5 sur l'année, dans les centres culturels. Puis on fait des conférences naturalistes. Là, c'est peut-être plus vers les naturalistes purs, mais c'est un public comme un autre. Et puis on va faire aussi des balades un petit peu ouvertes à tout le monde. Là, il y en a 50 sur l'année. Donc c'est déjà pas mal. Puis on a des soirées ruralité. Ici, on va en faire une dans une scierie. On en a fait une chez un agriculteur. Là, l'objectif, c'est aussi d'aller vers d'autres personnes. Parce que on ne veut pas convaincre les convaincus. On va aller voir un petit peu tout le monde. Et clairement, pour l'instant, on ne touche pas tout le monde. Mais c'est notre boulot. C'est d'essayer de trouver des nouveaux plans d'attaque, si on veut, pour aller toucher des gens qu'on d'habitude on ne touche pas. Pour ça qu'on fait des animations sur les marchés, par exemple. Des animations astronomiques, regarder le soleil, c'est le CNAP, donc le Cercle des naturalistes de la Botte du Hainaut qui fait ça, pour nous. Et bien en parlant avec monsieur et madame tout le monde sur le marché, sur les différents marchés qui existent dans le parc national, pour engager la conversation, expliquer, recueillir ce qui se dit. Et tout ce qui est recueilli, on le prend, on l'emmagasine et on en tient compte, en fait. Hein. On voit comment on évolue dans le temps. Et en parallèle, il y a aussi un conseil citoyen qui est dans le rouage de l'organisation, de l'organigramme de la gouvernance. Et pour l'instant, ce sont des questions plutôt en interne, c'est-à-dire en interne dans la coalition territoriale ou même large. Donc, c'est-à-dire avec les communes, avec les organismes publics. C'est qui on met dedans, dans ce conseil citoyen et quel pouvoir on lui donne. Et ça, c'est un super exercice. Parce que quel pouvoir on donne? Est-ce qu'on donne le pouvoir équivalent à une commune au conseil citoyen ou pas? Est-ce que la commune est prête à lui donner ou pas? Est-ce que c'est une bonne chose? C'est peut-être pas une bonne chose. Donc toutes ces questions prennent plus de temps que prévu pour y répondre. Mais il ne faut pas se presser, parce que cette question elle est sensible et il faut que ça soit bien fait. Et si ça prend un peu plus de temps, ça prend un peu plus de temps. Mais c'est important déjà que dans la coalition territoriale et la coalition large, on soit tous d'accord sur la composition. Est-ce que tous les mois ou tous les trois mois qu'on fait un conseil citoyen, est-ce qu'on change de personne? Ou est-ce que c'est tout le temps, ce sont tout le temps les mêmes? Si ce sont tout le temps les mêmes, comment est-ce qu'ils viennent? Est-ce qu'ils sont élus? Qu'on ne va pas encore emmerder les gens avec une élection en plus? Enfin, et toutes ces questions sont vraiment positives. Pour l'instant, on en est là-dedans et c'est une espèce de nœud. On essaye de défaire le nœud et je suis sûr que le nœud, aussi compliqué soit-il, quand on l'aura fait tourner 1000 fois entre nos doigts et qu'on aura essayé 1000 fois de le défaire, on saura le défaire. Mais la 999e fois, il ne faudra pas se décourager. Il faudra essayer la 1000e pour y arriver. Donc ça sera compliqué. Mais peu importe.
Ok, super, super. Alors, peut-être une petite en plus comme ça, un peu pour la route. Hein, là, c'est moi qui suis curieux. Toi, tu es engagé pour combien de temps? Tu te projettes là-dedans sur combien de temps?
Moi, j'ai de la chance. C'est parce que je travaille au Cercle des naturalistes de Belgique. Et les Cercles des naturalistes de Belgique m'ont détaché sur ce projet. Pour 4 ans, et on espère bien pour plus. Donc moi, personnellement, je n'ai pas un intérêt personnel, tu vois, ni financier, à ce que le parc se fasse. Moi, mon boulot, j'en aurai toujours un, j'aurai toujours le même salaire, j'aurai toujours, qu'il y ait parc ou pas. Mais par contre, à titre beaucoup plus personnel, on ne peut pas laisser passer un truc, une opportunité comme ça d'arriver... de protection, de préservation à une expérience, enfin c'est pas une expérience, hein, il faut concrétiser une œuvre collaborative si on veut, tellement gigantesque, je veux dire, ça n'arrivera qu'une fois dans ma vie, donc je peux pas laisser passer ça, donc ça c'est une première chose, et un projet comme ça, il est bon, il est positif, il ne peut que réussir. Alors, je ne sais pas comment il va réussir. Tu vois, parce que dans 20 ans, on en sera, j'en sais rien. C'est-à-dire qu'on fait des projets, on fait des plans et tout. Oui, ok. Mais 20 ans, tu imagines ce que c'est. Où on sera, j'en sais rien, mais on sera plus loin. Mais c'est déjà ça.
Puis voilà, il y a un peu j'imagine un peu des moments où vous allez faire un peu le bilan, enfin en cours de route, voilà, enfin tout le temps.
Oui, chaque année. Enfin. Donc ici, ça fait seulement une année hein, qu'on... Donc oui, chaque année, on fait un bilan.
Est-ce que le parc a déjà été ouvert?
Alors, c'est comique parce qu'il y a la ministre qui est venue il n'y a pas longtemps, la ministre Tellier, et alors il y a, je ne sais plus quelle gazette, qui disait que c'était l'inauguration du parc. En fait, il faut plutôt voir ça comme c'est une maison qu'on construit. Et maintenant, on est en train de faire les fondations. Donc moi, j'inaugure pas un immeuble quand on fait les fondations. J'inaugure quand elle est finie. Et quand elle est finie, ben, ça sera dans 4 ans. Dans 4 ans où on pourra dire qu'on a fini le gros œuvre. À ce moment-là, on pourra faire une ça aura du sens d'en faire une. Mais maintenant, tu sais, bon, je dirais le 1er janvier, quand le projet a changé, il n'y a rien qui a changé entre le 1er janvier et le 31 décembre. Hein. c'est toujours la même chose. Donc voilà, on est en train de le construire. Donc il n'y a pas eu une grande fête officielle avec quoi? Puisqu'on fait des feux d'artifice, c'est toute une affaire. Avec de la tarte et du café.
Voilà.
Et de la bière. Pour de la chimée.
C'est déjà pas mal. On va pas se plaindre. Ok. Super, génial Sébastien, grand merci. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose pour Pire FM, l'été indigène sur les bords de l'Ourthe 2023.
Ah ben un grand merci d'être venu. Et puis si vous êtes sur le bord de l'Ourthe, ça me fait plaisir que
que vous alliez remettre mes amitiés au castor. Hein. Voilà, à part ça.
ça